RMC After Paris.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 4 After Paris, saison 2025-2026. Merci à toi qui nous écoutes en podcast, merci à toi qui nous regardes sur YouTube, merci à toi qui nous regardes sur After Foot Télé, la télé de l'After à retrouver sur toutes les télés connectées. After Paris, le podcast de ceux qui ont aimé Franck Gava et Bonaventure Kalou. Aujourd'hui, Jimmy Brown est là. Salut Jimmy.
Très belle référence. Bonsoir François, bonjour à tous.
Et puis Fabrice Hawkins, bien évidemment, est là. Salut Fabrice.
Salut François, salut Jimmy.
Très heureux de vous retrouver pour un épisode exceptionnel, puisque c'était évidemment le retour en Ligue des champions d'Europe. C'était face à l'Atalanta et on a vu un récital parisien, une victoire 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Une première période délicieuse, on va y revenir. D'ailleurs, n'hésitez pas à désigner l'homme du match en commentaire. Pour vous, qui est l'homme du match, je poserai la question à Jimmy et à Fabrice. On va parler aussi bien sûr de ce qui s'est moins bien passé, la blessure de Neves, le pénalty raté de Barcola et puis le cas peut-être Gonzalo Ramos. Mais d'abord, je voulais commencer cet After Paris épisode 4 par écouter une réaction de celui qui découvre ce groupe. C'est Lucas Chevalier. Il découvre les champions d'Europe. Il a joué son premier match en Ligue des Champions avec le PSG. Et ce qu'il dit est très très intéressant, c'était au micro de Jérôme Sillon d'RMC Sport. Écoutez.
Ça envoie forcément un gros signal comme quoi l'équipe est motivée et confiante. Et je sens vraiment depuis mon arrivée un club très en confiance et très serein dans ce qu'ils veulent faire. Je pense que le fait qu'ils aient gagné la Ligue des Champions la saison dernière les a enlevés d'un poids et qu'aujourd'hui, le jeu se fait encore plus facilement, sereinement.
Est-ce que vous partagez cet avis de Lucas Chevalier qui lui a eu le temps de voir ce qui se passait sur la pelouse parce qu'il n'a pas été...
Oui, ça fait marrer, on dirait presque le gardien de l'équipe adverse, tu sais, qui s'exprime. Le fait qu'ils aient gagné la Ligue des Champions, ouais, il ne faisait pas partie de cette aventure-là, mais il a, oui, bien sûr qu'on est d'accord. Moi franchement, j'étais surpris de voir... On parle souvent d'interrupteurs avec le PSG, tu sais, au niveau européen. Les dernières années, on disait souvent ça. Est-ce qu'ils sont capables de... Et là, ils sont vraiment passés en mode Ligue des Champions, quoi. Moi, j'ai pas trouvé le match exceptionnel, malgré la victoire face à Lens. J'étais un peu inquiet avant le début de la compétition. Et puis là, tu vois, dès les cinq premières minutes, en fait, déjà, t'as l'ambiance du Parc des Princes. Je pense qu'il a dû se régaler, Lucas Chevalier. T'étais vraiment l'impression d'être au printemps dernier. On est resté sur une espèce d'euphorie de la part du public et pas que dans les virages. En fait, tout le Parc des Princes poussé derrière l'équipe et la manière dont ils ont abordé le match, dont ils sont rentrés dans le match. Marquinhos, enfin, le symbole, moi, je le trouve dingue de voir Marquinhos aller au pressing, être là en renard des surfaces pour conclure au bout de même pas 5 minutes de jeu. Ouais, moi, ils m'ont vraiment impressionné, leur capacité à étouffer complètement l'Atalanta sur les 20 premières minutes. Franchement, si t'as pas un bon gardien et si t'as un peu plus de réussite, parce que ça touche quand même le poteau, etc., tu peux être à 3-0 au bout de 20 minutes, il n'y a pas scandale. Donc, oui, je suis d'accord avec lui. Tu sens qu'ils sont complètement libérés et qu'ils sont en mission, quoi. Quand ils ont abordé cette compétition d'une toute autre manière par rapport à ce qu'ils avaient fait en Ligue 1 jusqu'à présent.
Impressionnant ce PSG, Fabrice, évidemment. Bon, l'adversaire, ce n'est plus l'Atalanta Bergame avec Gasperini, on l'a vu, malgré tout, quand même. Il y avait quelques doutes, comme le disait Jimmy, surtout avec les absences d'Embélé, Doué, etc. Et on a vu, surtout lors de cette première période, le rouleau compresseur qui est devenu le Paris Saint-Germain.
Oui, on a vu qu'ils n'avaient rien perdu finalement de leur schéma de jeu, qu'ils savaient toujours aussi bien jouer. Comme tu le dis, c'est vrai qu'il y avait des doutes. Hein. Souvenez-vous quand Ousmane Dembélé et quand Désiré Doué se sont blessés en sélection. Qu'est-ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on entendait? Ça va être super dur, ça va être compliqué en Ligue des Champions. Derrière, il y a eu la petite alerte aussi de Kvaratskhelia. On s'est dit ça va être vraiment terrible pour eux. Et finalement, ils ont réussi à montrer encore une fois qu'ils étaient au-dessus dans le jeu. Il faudra voir contre des équipes, en tout cas, qui sont un peu plus expérimentées, qui sont plus performantes et efficientes aussi. Mais contre l'Atalanta hier, ils ont été, et c'est le mot, impressionnants.
Alors justement, on va rentrer dans le détail des individualités. Il y en a pas mal à ressortir après un 4-0, forcément, mais il faut faire un choix. C'est le petit jeu que je vous ai proposé pour cet épisode d'After Paris, d'évaluer les joueurs et qui est votre homme du match. Alors, on va commencer par toi, Fabrice. Pour toi, quel joueur tu as envie de ressortir après cette victoire?
Nuno Mendes. No Mendes pour plusieurs raisons, pas seulement pour son but, mais parce qu'il représente tout à fait ce que souhaite faire Luis Enrique. Hein, c'est un dépassement de fonction quasi total. Il sait défendre, il attaque énormément. J'ai une pensée aussi pour lui par rapport à sa renégociation et à sa prolongation de contrat. Ça a été long à se dessiner. Il n'était pas forcément très heureux. On parlait des conditions financières. Il y avait aussi son poste en tout début de saison passée qui avait pu poser problème parce que Luis Enrique avait tendance à le faire jouer dans les trois de derrière et de laisser vraiment Achraf Hakimi un peu plus haut. Et au cours de la saison, il a modifié ça. Il a aussi, c'est là aussi où on dit qu'il a, il a fait évoluer les choses. Il a su écouter ses joueurs également. Et depuis qu'il est repositionné dans un rôle où il peut attaquer et défendre, il est vraiment exceptionnel. Il sait absolument tout faire. Pour moi, c'est le meilleur à son poste aujourd'hui au monde.
Une grande liberté hein, laissée à Nuno Mendes. C'était incroyable de le voir des fois. Donc,
moi, c'est les démarrages
au milieu du terrain
qui sont vraiment.
Plus physiquement, évidemment, très impressionnant.
C'est un monstre. C'est un monstre. Quand il démarre, tu sais que tu peux pas l'arrêter quoi. Et puis il y a une qualité technique aussi pour un latéral qui est quand même assez impressionnant dans les crochets, etc. Franchement, oui, il a fait un super match. Et là où je rejoins Fabrice, c'est je me souviens le début de saison dernière, on était tous frustrés en fait, on comprenait pas parce qu'on avait déjà vu sur les saisons précédentes par bribes sa capacité à prendre son couloir, etc.
Avec Mbappé.
Et on comprenait pas pourquoi il était bridé comme ça, à pas pouvoir monter, à pas pouvoir faire de différence. Et c'est vrai que ça, le fait d'avoir lâché les chevaux de son côté, ça a coïncidé aussi avec le renouveau du PSG, avec une équipe plus impressionnante et encore plus imprévisible.
D'ailleurs, simplement un petit détail hein, là-dessus sur son repositionnement et le fait qu'il va maintenant vers l'avant et que Luis Enrique lui laisse la pleine capacité de jouer offensivement. Vous aurez remarqué que c'est ou Neves ou Fabian Ruiz ou Vitinha qui vient compenser. Et ça, ça a vraiment été pensé pour libérer Nuno Mendes et pour qu'il puisse apporter justement offensivement.
Et puis Pacho aussi, il a pris une telle importance défensivement, axe gauche, etc., qu'il est aussi capable de couvrir. D'ailleurs, hier sur la fin de match, il le décale carrément arrière-gauche. Pas sûr que ce soit son meilleur rôle, mais en tout cas, voilà, ça montre à quel point il a confiance en lui.
Nuno Mendes, homme du match, évidemment. Bah, je crois qu'on partage tous ça. Peut-être un autre joueur à ressortir.
Moi, j'aurais pu citer aussi Nuno Mendes, mais j'ai choisi Guevara parce que j'étais assez inquiet pour Guevara. Moi, je suis de nature assez pessimiste, vous allez me dire.
C'est vrai que depuis le début de la saison, à chaque fois, t'es pessimiste.
Mais c'est vrai que Guevara, sur le début de saison, il n'avait pas montré, voilà, Super Coupe d'Europe, il n'avait pas été exceptionnel, il avait peu joué en Ligue 1. Là, il démarre contre Lens, il se blesse, tu te dis, bon, est-ce qu'il va pouvoir être là ou quoi? On s'interroge la semaine dernière en parlant de Bradley Barcola, du positionnement, qui va jouer à gauche, qui va jouer à droite.
Ça, finalement, c'est intéressant, c'est lui qui joue à droite et il reste à droite, il y a très peu de permutations.
Et c'est lui qui décale à droite, et moi je me suis dit, je pensais plutôt l'inverse, est-ce qu'à droite il va réussir? Et puis là, en fait, il te sort un but de Ligue des Champions, quoi. T'as l'impression d'être sur console, à un moment donné, il démarre, bim, crochet, il te met une frappe exceptionnelle, et au-delà de son but... Il a toujours été, enfin voilà, c'est le Guevara qu'on aime, quoi, qui est toujours dans la provocation, dans la générosité aussi, dans les efforts, etc. Donc oui, j'ai adoré sa prestation et puis il a pleinement rassuré sur son état physique et c'est de très bon augure en vue notamment du déplacement important à Marseille dimanche.
C'est un joueur Ligue des Champions, hein, Guevara. Dès qu'il est en Ligue des Champions, dès qu'il est dans les grands rendez-vous, il est compté sur lui.
Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain l'a recruté quand ils étaient plus en difficulté la saison passée, sur la première moitié de saison. Quand il est arrivé, on a tout de suite senti la différence. Après Guevara, moi je partage le constat de Jimmy, même si sur les premières minutes j'étais un peu inquiet pour lui, je le voyais pas en difficulté physiquement.
Mais c'est une repère aussi, tu vois, parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer là en fait.
Ouais, peut-être, mais même dans les courses, je le sentais pas comme d'habitude. Et en fait, il est monté en puissance et il met aussi ce but, il faut se le dire, hein, qui fait toute la différence à 2-0. Il faut marquer ce but, ils ont du mal, ils ont les occasions, et c'est aussi grâce à cette qualité, et c'est aussi pour ça qu'il est aussi important au Paris Saint-Germain, il arrive à mettre ce but que d'autres n'ont pas réussi à mettre.
C'est le côté imprévisible du joueur aussi, qui sort peut-être aussi des schémas tactiques et qui arrive par ses qualités individuelles, ses qualités de dribbleur, ses qualités de provocation, à marquer un but qui n'est pas totalement un but PSG d'ailleurs, parce que c'est pas ça, un redoublement de passe. C'est-à-dire
quand Luis Enrique te dit, moi j'installe des schémas et après ça appartient au joueur, lui,
et il va.
Il représente ça pleinement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui va faire la décision, il va avoir une fulgurance. Et ce qui est bien, chez Guevara, c'est qu'il n'y a pas que ce côté-là. Il y a en même temps la générosité, les efforts. C'est pas un mec qui joue pour lui tout le temps. Mais voilà, il peut être capable. Je pense que la trêve a pu lui faire du bien. Il a été décisif avec la Géorgie de Willy Sagnol pendant la trêve. Il a marqué sur les deux matchs. Et il revient bien. Donc c'est important. Moi franchement, j'étais ultra flippé. Quand je le vois sortir sur blessure contre Lens, là je me dis ça devient compliqué parce que t'as pas, tu vois, si t'as plus Dembélé, plus Doué, qu'en plus tu perds Kvara, c'est
il y a un gros boulot, il y a un gros boulot qui a été fait par le staff. Et moi c'est ce qu'on m'avait dit il y a encore deux jours, hein. Si Dembélé et Doué étaient là, ils n'auraient pas joué. Pas qu'ils ont pris un risque, mais ils ont tout fait pour le mettre sur pied. C'est pour ça que la veille du match on disait que s'il est sur la feuille de match et s'il a de bonnes sensations, il va démarrer. Ils voulaient vraiment compter sur lui, peut-être pas lancer trop de jeunes en même temps, parce qu'on a vu avec le choix de Seni Mayulu, si tu mets Seni Mayulu devant, que tu fais pas jouer Gonzalo Ramos et que tu fais jouer Bradley Barcola sur le banc de touche, il y a plus beaucoup de monde. Et c'est vrai que se présenter avec un triptyque Seni Mayulu, Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye, c'était peut-être un peu léger pour Lucien Riquet, même si c'est des joueurs très talentueux.
En tout cas, ça gère en fin de match. Ouais. Pour quand il laisse les 20 dernières minutes à Mbaye, c'est clairement en vue du match à Marseille.
Alors, justement, il y en a un autre qui a été géré, et pour moi c'est pas l'homme du match, parce que je pense qu'effectivement ça se situe entre Nuno Mendes et Kvaratskhelia, mais quand même pour moi c'est le petit coup de cœur Fabian Ruiz. Il a été géré parce qu'il a joué 55 minutes, hein, donc vraiment c'est en prévision sans doute du match face à Marseille ce week-end. Et pourquoi le coup de cœur? Alors je sais, j'ai écouté After Paris la saison dernière, je sais qu'il y a eu énormément de débats autour de lui. Il a éteint tous les débats en fin de saison dernière.
Il y a des critiques, et pas que dans After Paris. Hein.
Ouais, sur ce match-là, moi je trouve qu'il représente tout à fait ce que souhaite Luis Enrique. C'est-à-dire, tu l'as dit tout à l'heure aussi pour Mendes, mais dépassement de fonction. Mmh. Fabian Ruiz, il est indissociable des deux autres du milieu de terrain, Vitinha et Neves. Mais lui, il a cet apport offensif qu'il montre en début de partie, avec évidemment sa passe décisive et la passe qui aurait pu être décisive avec la talonnade pour Hakimi. Il a une qualité technique fantastique. Et surtout, il s'intercale entre les lignes. Et je pense que pour un adversaire,
c'est
horrible de jouer face à une équipe qui a un Fabian Ruiz, dont tu ne sais pas ce qu'il peut faire, et avec sa qualité évidemment technique, et il compense ensuite pour permettre à Mendes par exemple de monter.
Je te rejoins, et au-delà moi de toutes ses qualités techniques, et même il est physiquement impressionnant aussi, parce que dans sa capacité à répéter les efforts, etc., moi ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est la force mentale du gars, parce que il y a un an, tu te dis, il est au fond du trou, il va jamais réussir dans ce club-là, ça va pas marcher, etc., et un an plus tard, t'as l'impression que c'est son équipe en fait.
Et même en
c'est
interne,
lui le patron au milieu, tu vois, c'est l'espèce de plaque tournante. Évidemment, comme tu dis, c'est indissociable de Vitinha, de João Neves. Mais voilà, Fabian Ruiz, il est là, il réclame
apporte,
à chaque fois.
Il
fait
cette
le lien attaque-défense.
Il est capable d'aller vraiment de l'avant. Il est ultra important, je pense, au milieu de terrain. Je sais pas comment. Je pense que Luis Enrique, il l'adore, hein, de toute façon, ça se voit.
Mais même à l'époque, il le défendait déjà.
S'il n'était pas là, Luis Enrique, c'est sur Reservoir qu'il serait parti. Parce que en interne, bon, il y avait beaucoup de voix qui disaient Fabian Ruiz, c'est pas mal, mais bon, est-ce qu'il va vraiment réussir au plus haut niveau chez nous? Est-ce qu'au Paris Saint-Germain, il va pouvoir passer ce palier qui permette à ce milieu de tourner? Il y avait beaucoup de sceptiques. Et si Luis Enrique ne le rattrape pas par la manche en lui disant « Reste ici, moi j'ai confiance en toi, je vais réussir avec toi », contre, je ne vais pas dire contre tout le monde, mais contre beaucoup, eh bien, il n'est plus là, Fabian Ruiz. Donc il faut aussi rendre hommage à Luis Enrique qui a eu du flair, tout simplement.
Voilà, pour les hommes du match, vous en avez peut-être d'autres, n'hésitez pas, dans les commentaires, vous laissez votre homme du match, votre joueur préféré sur cette rencontre face à l'Atalanta. On revient dans un instant dans After Paris, vous restez évidemment avec nous, on débrief ce premier match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. On va revenir sur les choses qui se sont un peu moins bien passées, le pénalty raté, mais aussi peut-être la blessure de Neves. Restez avec nous, on revient tout de suite. After Paris, deuxième partie du podcast hebdomadaire, vous le savez, sur l'actu du PSG. Merci à toi qui nous écoutes en podcast, merci à toi qui nous regardes sur YouTube et sur After Foot Télé. Jimmy Brown, Fabrice Hawkins, aujourd'hui pour revenir sur ce PSG Atalanta. On a parlé des choses qui nous ont plu, on va parler de ce qui nous a moins plu ou de ce qui nous inquiète. Tiens, l'inquiète service, c'est Jimmy. J'imagine ta tête quand tu as vu sortir João Neves en deuxième période. Ah oui, d'abord, la blessure, on va le dire, hein, au moment où on se parle là, on n'a pas encore l'info pour savoir
Fabrice, il sait, hein,
combien de temps ça va durer.
Mais Fabrice, il sait, mais il ne veut pas dire.
Il est sur son téléphone, il est en train de chercher.
Justement, il
est en train de chercher. Les infos qui tombent en direct.
Non, mais c'est vrai qu'il a passé ses examens aujourd'hui et la décision, dans tous les cas, va tomber incessamment sous peu. Je ne veux même pas dire qu'il y a de l'optimisme ou il y a du pessimisme. Hein. Hier, on espérait juste qu'il puisse jouer contre Marseille, mais rien n'était sûr. Donc, il a passé ses examens, ça on peut vous le dire, et la décision va tomber bientôt.
Ouais, quand c'est pas un coup, et hier, malheureusement, c'est pas un coup qu'il prend, il se blesse un peu tout seul sur une reprise d'appui. J'ai du mal à penser qu'il soit opérationnel contre l'OM, parce que Kvara, pour le coup, lui, c'était un coup.
Ouais, exactement. Ouais.
Tu peux récupérer vite.
Un gros coup, mais un coup.
Ça peut être
là, quand c'est musculaire, en général, c'est malheureusement un petit peu plus long, mais évidemment que c'est une source d'inquiétude, parce que comme on le disait il y a deux minutes en parlant de Fabian Ruiz, ce trio du milieu, il fonctionne par la complémentarité en fait entre les trois membres. Et là, quand on perd un, et moi, enfin moi perso, João Neves, c'est mon chouchou. C'est, s'il y en a un que je dois ressortir dans cette c'est équipe, vrai. Moi, j'adore ce joueur parce que voilà, il a quelque chose quand il a le ballon dans les pieds. Même quand il l'a pas, il est toujours en train de courir. Il a une énergie, il est capable d'être décisif aussi. Mais il a été décisif dans des grands matchs la saison dernière. Donc oui, ce serait une grosse perte que de pas l'avoir dimanche au Vélodrome. Maintenant, voilà, on a parlé de Warren Zaïre-Emery en début de saison et de l'importance pour lui de s'affirmer cette saison. Ça va être son match et ça va être à lui de montrer qu'il est capable aussi d'élever son niveau. Quoi. Moi, j'ai pas encore. J'ai pas été transcendé par son entrée, tu le disais
encore
hier,
fois,
il relaie assez tôt dans le match Fabian Ruiz et il fait pas une super entrée hier Warren Zaïre-Emery. Donc
après il entre à un moment donné où le PSG a déjà le match
gagné, joué, le match est déjà
c'est
joué,
forcément
ouais.
peut-être
oui.
plus difficile, l'équipe elle tourne moins qu'en début de
ouais mais quand malheureusement t'as une équipe avec un trio surtout aussi dominateur au milieu de terrain, il faut, avec les miettes que t'as, il faut pouvoir montrer très vite. Là je pense qu'il en aura l'occasion,
donc à suivre évidemment la blessure de João Neves,
mais bon, ça rejoint ce qu'on va dire et je pense qu'on va le répéter souvent. Et c'est Manu Petit qui en parlait hier soir dans l'after. Il disait au-delà de l'enchaînement des matchs, ce qui l'inquiète le plus, c'est qu'à un moment donné, tu payes dans une saison, lui dit, le manque de préparation. En fait, t'as démarré une saison sans après 3 semaines de vacances, il y a une semaine d'entraînement et t'as démarré contre Tottenham. C'est quelque chose qui s'est jamais vu dans l'histoire du foot. Donc à un moment donné, forcément, on va devoir payer l'addition à un moment ou à un autre. Donc, est-ce que la stratégie, ça va être de ménager les cadres pour leur refaire faire du foncier? C'est ce qu'évoquait peut-être, c'est l'option qu'évoquait Manu hier.
Mais t'as pas le temps, c'est ça le problème.
C'est de dire voilà,
tu joues des matchs avec
des matchs
la Ligue des Champions que tu as,
ouais.
tu peux pas prendre le temps avec.
Pour l'instant,
t'as des matchs tout le temps. Il y a la.
Mais c'est par petit groupe, tu vois, il va se dire voilà, j'en sors 3 pendant X temps.
Ouais, mais le souci, c'est que t'as la fenêtre internationale aussi. On sait que c'est des joueurs importants dans leur sélection, donc ils vont jouer.
C'est compliqué.
Le temps ne joue pas en la faveur du Paris Saint-Germain.
La vraie question et la vraie inquiétude, c'est de savoir si tu vas pouvoir arriver à avoir ton pic de performance comme tu l'as eu l'année dernière en deuxième partie de saison, au-delà du cas des blessures qui vont arriver, mais qui vont arriver pour tous les clubs. Ça, tu vas en être des blessures, tu vas en avoir à Paris, tu vas en avoir partout parce que il y a beaucoup trop de matchs, on le sait, les cadences sont infernales. Donc tous les joueurs vont avoir une propension à se blesser. Mais la différence, c'est que le PSG, contrairement aux autres clubs, ils ont eu la prépa la plus courte de tous les clubs en lice dans cette Ligue des Champions. Et ça, j'espère que ça ne va pas se payer à un moment donné.
Toutes les infos sur la blessure de Neves, évidemment, vous connaissez le chemin, rmcsport.fr, avec les bonnes infos de Fabrice Hawkins. Autre point noir, on a envie de dire qu'il y a eu quand même des déceptions hier, parce que c'était un récital, mais ce pénalty de Bradley Barcola. Je vous renvoie au dernier épisode d'After Paris où on parlait de Bradley Barcola. Forcément, après, il a marqué encore une fois le week-end dernier. On l'attendait aussi sur ce match de Ligue des Champions. Et malheureusement, ce qu'on gardera de son match, c'est peut-être ce pénalty tiré de façon très nonchalante, qui a visiblement pas trop plu à Luis Enrique, si on l'a entendu chez nos confrères de Canal, qui disait, si vous voulez des explications sur la façon dont il a tiré, il faut demander directement aux joueurs. Donc Fabrice, explique-nous comment ça se passe. Qui désigne les tireurs de pénalty? Juste avant de t'entendre, on va écouter Luis Enrique, parce qu'il a été interrogé aussi en conférence de presse sur qui tire les pénaltys au PSG.
On a montré la saison dernière qu'on a eu beaucoup de joueurs qui peuvent être les tireurs. Et en ce sens-là, aujourd'hui, on a pensé que Bradley, qu'il a marqué aucun but sur les pénaltys, d'avoir cette possibilité comme davanté. Mais normalement, ces situations, c'est plus pour Vitinha, c'est plus pour Ousmane, et pour Gonzalo aussi, Nuno Mendes. Et on a beaucoup de tireurs, Bradley Barcola, bien sûr.
Alors, la question maintenant, Fabrice, c'est la hiérarchie des pénaltys. Il en parle un petit peu,
c'est intéressant,
évidemment, mais qui n'est pas là actuellement. Est-ce qu'il y a une hiérarchie claire et nette au Paris Saint-Germain?
Juste, ça commence à être un vrai sujet, Fab, parce que 4 sur 8, sur les 8 derniers, il y en a 4 qui ont été manqués. C'est 50% de réussite, c'est inquiétant quand même, à ce niveau.
En fait, le sujet des pénaltys, je vais vous renvoyer évidemment à l'ouvrage de l'Enfer au paradis, parce qu'on explique bien comment ça s'est passé. Non, c'est pour comprendre la situation actuelle au Paris Saint-Germain concernant les pénaltys. Le tireur des pénaltys aujourd'hui au club s'appelle Ousmane Dembélé. Ils ont fait un vote, effectivement, la saison passée, où concrètement, Luis Enrique a décidé, peu importe ce que voulaient ses joueurs, finalement, puisqu'il avait organisé un vote, mais finalement, il a décidé que c'est lui qui avait le dernier mot et que ce serait Vitinha.
Un semblant de démocratie, quoi. On fait croire qu'ils ont le choix, mais en fait, non.
En laissant un peu de marge de manœuvre, avec donc la possibilité pour Ousmane Dembélé de les récupérer à partir du moment où Vitinha rate. Donc il se trouve que Vitinha a raté, Ousmane Dembélé les a récupérés, lui-même a raté mais a continué à les tirer. Donc aujourd'hui, quand il est sur le terrain, il va tirer. Maintenant, il n'est pas là. Il n'est pas là pour un petit moment. Donc là, il s'ouvre une espèce de zone grise. Et force est de constater, et il l'a dit hier, que c'est lui qui va désigner les tireurs de pénalty. Bradley Barcola, il n'a pas pris le ballon en se disant « Bon, c'est moi qui vais tirer parce que je me sens bien. » Le coach a sans doute voulu lui donner de la confiance aussi. Rappelons quand même l'historique de Bradley Barcola, où cette saison, enfin l'été dernier, il y a eu un petit peu de doute aussi de sa part. Donc sans doute Luis Enrique a trouvé bon de vouloir le rassurer aussi par rapport à ça. En plus, il est en pleine bourre, il a marqué un doublé face à Lens, il est vraiment dans une très bonne période. Et je pense vraiment qu'il a voulu lui donner ce penalty-là en lui disant voilà, marque encore en Ligue des Champions, prendre la confiance, il faut aussi que ce soit important pour nous dans cette compétition. Malheureusement, il a raté, et Jimmy le disait, le bilan n'est pas bon. 4 penalties marqués seulement sur les 8 derniers. Et donc je pense qu'il y aura peut-être un petit peu moins d'expérimentation en attendant le retour d'Ousmane Dembélé.
On risque pas de revoir Barcola tirer un pénalty, quoi. C'est ce que veut nous dire Fabio.
Après, tu as aussi l'école de ceux qui disent, et c'est au micro de Canal hier, David Gina qui disait à la mi-temps, ok, on lui tombe dessus Barcola, mais si le gardien part de l'autre côté, il est prêt à contre-pied, et tout le monde dit, ouais, il a tiré avec calme, il a tiré
Barcola,
avec...
Il prend du tout d'élan, je pense que
Vitinha, les deux derniers, les a ratés avec une course aussi.
La façon de tirer Vitinha est très particulière.
Neymar, il est rentré dans la tête de beaucoup de joueurs sur les pénaltys. En fait,
oui,
faut que les joueurs comprennent que tout le monde n'est pas Neymar.
Quoi, voilà.
Et moi, je suis partisan de des mecs qui envoient des sacoches comme Nuno Mendes, par exemple.
Nuno Mendes, c'est très bon.
Toujours des nerfs très solides, que ce soit avec le Portugal, le PSG dans les séances.
Désiré Doué.
D'ailleurs, il le mentionne dans le son, je crois, Luis Enrique.
Oui, tout à fait.
Pourquoi pas Nuno Mendes ? Voilà, s'il est sur le terrain, c'est un mec, tu sais qu'il va envoyer fort sous la barre. Ça reste pour moi le meilleur moyen de marquer des pénaux.
Voilà, ça c'était l'histoire des pénaltys. Et puis alors, il y a cette gestion quand même dont je voulais parler avec vous, du cas Ramos. Ramos, il marque certes le 4e but pour le Paris Saint-Germain. Il n'était pas titulaire, c'était Mayoulou qui avait été choisi quand même de façon un peu surprenante, en tout cas de notre point de vue. Et ensuite, quand Mayoulou sort, qui est-ce qui entre pour prendre la pointe de l'attaque ? C'est Lee.
Le désaveu, il est surtout là en fait.
Voilà. Et ensuite, évidemment, avec la blessure de Neves dont on a parlé, on change un peu la stratégie. Ramos rentre à ce moment-là et Lee repasse au milieu de terrain.
Le problème en fait, c'est que l'entrée de Gonzalo Ramos a donné raison à Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, en fait, il part du principe, et c'est pas un secret, qu'un numéro 9 doit savoir tout faire et surtout participer au jeu. Chose que peuvent faire Seni Mayulu, Kangin Lee, et un petit peu moins, c'est vrai, Gonzalo Ramos, même s'il n'est pas maladroit, il n'a pas les pieds carrés, il sait faire contrôle remise, il n'y a pas de problème. Mais il est moins fin techniquement que les autres.
Et moins mobile aussi.
Et moins mobile.
Ça, surtout
et,
ça.
Ouais. Et surtout, au niveau au club, beaucoup pensent que c'est un joueur qui est plus fait, dans ce système en tout cas, pour rentrer dans les fins de match, aller mettre la tête, faire la petite course, mettre le but en renard des surfaces, plutôt que de démarrer les matchs. Et eux adorent Gonzalo Ramos, vraiment. Hein. Quand il a dit « je reste cet été », il n'y a pas eu de débat en disant « non, mais ce serait bien que tu trouves un club ». Non, on reste, mais par contre dans un rôle déterminé. Et je pense que Gonzalo Ramos, son rôle, en tout cas jusqu'à ce qu'il quitte le Paris Saint-Germain, ce sera celui d'un super sub.
Et il le sait.
Après, je pense qu'il commence à comprendre, et je pense que ça va le titiller, parce que l'idée pour lui en restant, c'était de jouer. Il adore le Paris Saint-Germain, il avait des possibilités au Milan AC, mais aussi en Angleterre. Il aurait vraiment pu partir dans un top club. Hein. Il a quand même une cote sur le marché, Gonzalo Ramos, attention. Hein. International portugais, il a des références, personne n'oublie les saisons qu'il a fait au Benfica. Et donc il avait vraiment des portes de sortie. Lui a décidé de rester, le club lui a dit pas de problème. Je pense que quand il a vu Ousmane Dembélé blessé, il s'est dit il y a une porte qui va s'ouvrir. Il n'a pas su saisir quand Luis Enrique lui a donné sa chance quand il a été titulaire. Ouais. Et là, c'est vrai qu'il glisse doucement mais sûrement vers une place de super remplaçant.
Oui, mais il ne faut pas oublier, voilà, Fabrice le disait, mais il y a quand même eu le match contre Lens où il est titulaire.
Oui, complètement.
Il passe à côté.
Ah bah c'est ça.
Mais là où moi j'étais surpris, hier on se parlait, je ne vais pas trahir Pierrot Dorian qui est aussi un grand supporter du PSG, il me dit ouais, Ramos, quand on voit la compo, on voit Mayulu devant, il dit ah, je pense qu'il l'a tué Ramos à ce moment-là. Et moi je dis non, parce qu'en fait il fait pas un bon match contre Lens, et tu comprends l'idée de le mettre sur Persub, etc. Par contre, quand il rentre Kanginli à la place de, là je lui dis là c'est beaucoup, tu vois. Et heureusement pour lui, finalement, qu'il a ce quatrième but à la fin qui lui permet aussi, je pense, d'accumuler de la confiance. Et tu sens qu'il est aimé dans le groupe. Quand Nuno Mendes passe en zone mixte à la fin, il a un mot pour lui aussi. Il dit voilà, c'est important pour Gonzalo de marquer. Mais
Portugal.
La difficulté, c'est la mobilité. D'ailleurs, il l'explique, Luis Enrique.
Il veut un joueur qui s'attaque à
l'au milieu. C'était Mayulu, parce que évidemment, il est plus mobile, il peut bouger.
Il fait pas un mauvais match d'ailleurs.
Alors que Gonzalo Ramos, on peut l'utiliser quasiment dans une sorte.
C'est un œuf de surface, quoi. C'est plus un œuf de surface qu'un œuf qui va venir décrocher, s'intégrer dans les circuits de passe, etc. Mais d'ailleurs, on peut en profiter pour saluer, moi je trouve, la performance de Mayulu, qui pour une première titularisation comme ça, il avait occupé ce poste-là en Coupe du Monde des clubs, je crois, contre Seattle. Ça n'avait pas été incroyable, ce genre-là. Moi, j'ai trouvé bon hier, même s'il n'est pas décisif. Enfin voilà, j'ai trouvé que. Il s'affirme de plus en plus dans cette équipe-là.
Et le club compte sur lui, c'est important aussi. On a entendu beaucoup notamment sur les réseaux, beaucoup appeler de leur vœu l'arrivée de Rodrigo Mora. Et certains ne comprenaient pas, quand on a sorti sur RMC notamment, que la direction sportive et le coach comptaient vraiment sur Seni Mayulu. On avait des commentaires en disant oui, mais c'est pas un offensif. Ouais, mais dans l'esprit de Luis Enrique, il peut jouer à tous les postes et notamment à ses postes offensifs.
Mais voilà. Capacité d'adaptation à saluer, parce que c'est pas normal.
Ça sera peut-être l'objet d'un futur épisode d'After Paris.
Il le mériterait.
On va parler de sa prolongation.
C'était parfait, messieurs. Merci beaucoup, Jimmy. Merci, Fabrice. Merci, on se retrouve la semaine prochaine dans After Paris pour un épisode 5 qui pourrait être très beau, puisque peut-être que Dembélé sera Ballon d'Or. Donc,
et que le PSG aura gagné le classique au Vélodrome aussi.
Pour ne pas le rater, pensez à vous abonner dès maintenant. Vous pouvez aussi bien sûr laisser une note et un commentaire. Vous connaissez le chemin. À bientôt. Merci à tous.
RMC After Paris.